placement durable qui a fait ses preuves.
Consultez nos produits financiers sur coste-viager.com. Coste-viager.com. Des milliers d'offres viagères sur toute la France.
Prenez Coste Viager. Le numéro 1 du viager en France.
RTL 14h. Les infos d'Yves Pouget.
La France assure qu'elle n'a pas payé de rançon pour la libération des 3 otages détenus 5 mois par Al-Qaïda au Yémen. Versement pourtant de plusieurs millions de dollars. Et c'est ce qu'affirment des sources tribales au Yémen. Les 3 humanitaires, 2 femmes et un homme, apparus plutôt en bonne santé à leur arrivée sur une base militaire du Sultanat d'Oman. Ces 3 humanitaires ont pris place à bord d'un avion spécial qui doit les ramener vers la France. Nous sommes très heureux d'être enfin libres et de pouvoir retourner dans nos familles. C'est ce qu'a déclaré l'un d'entre eux avant d'embarquer, remerciant chaleureusement le sultan d'Oman pour son implication. Ulcérés par les fuites dans l'affaire de proxénétisme du Carlton et par des articles sur leur couple évoquant un possible divorce, Anne Sinclair et Dominique Strauss-Kahn vont saisir la justice pour faire cesser ou condamner toute atteinte à leur vie privée. Les avocats du couple dénoncent des articles relevant du voyeurisme le plus détestable. Le nom de Dominique Strauss-Kahn est cité régulièrement dans l'affaire de proxénétisme du Carlton de Lille et il a répété vendredi vouloir être entendu par les juges, dénonçant un lynchage médiatique dont il serait la cible. La France va engager un recours auprès du tribunal de l'Union européenne pour demander l'annulation de la décision de Bruxelles concernant le plan de restructuration de Seafrance. C'est ce qu'indique François Baroin, le ministre de l'économie. Fin octobre, la Commission européenne avait rejeté le plan de restructuration de la société de ferries en redressement judiciaire. Elle avait considéré que la solution proposée par le gouvernement français prévoyant une recapitalisation à hauteur de 160 millions d'euros via notamment un prêt de la SNCF n'était pas conforme aux règles européennes de la concurrence. Avec la crise de la dette, l'Europe vit son heure la plus difficile depuis la Seconde Guerre mondiale. La petite phrase est signée Angela Merkel. La chancelière allemande participe aujourd'hui à Leipzig au congrès de son parti devant un millier de délégués de la CDU, l'Union démocrate chrétienne, réunie donc jusqu'à demain. Angela Merkel, qui joue un rôle clé dans la gestion de la crise en zone euro, a insisté sur le fait que l'heure est venue pour une percée vers une nouvelle Europe, car si l'euro échoue, c'est l'Europe qui va échouer, a-t-elle dit. Le maintien en détention provisoire prolongé de 12 semaines pour l'auteur des attaques sanglantes de juillet dernier en Norvège, Anders Behring Breivik, comparaissait ce matin pour la première fois en public devant un tribunal d'Oslo en présence de plusieurs familles de ses 77 victimes. Il a reconnu les faits, l'attentat à la bombe contre le siège du gouvernement norvégien puis la fusillade contre un rassemblement de jeunes sur une île près d'Oslo. Mais il a refusé de plaider coupable. Il a contesté également la légitimité du juge et il a tenté vainement de s'adresser aux proches des victimes. Son procès pourrait avoir lieu au début de l'année prochaine. Les courses, ça se passe à Vincennes cet après-midi. On retrouve tout de suite Bernard Glass. Bonjour Bernard.
Bonjour Odile. Pour l'arrivée du tiers écarté 4 et plus qui n'est pas encore officiel, en effet il y a une très longue photographie en ce qui concerne les 3e, 4e et 5e places de cette première épreuve où le numéro plus c'est le 1080 où tout le monde a couru et où la victoire est pour le 12 Sissi Dumorin qui s'impose à la cote de 10 contre 1 devant le 13 Sissi Morinville, d'une affaire de Sissi, donc 3 contre 1. Ensuite, c'est très serré, donc entre le 10 Sport Céleste à 3 contre 1, le 14 Source Royale à 12 contre 1 et le 16 Célessao de Loup qui était à la cote de 76 contre 1. 12 et 13, c'est sûr. Photographie 10, 14, 16. La confirmation, les rapports, bien entendu, à 15h.
Merci Bernard, à tout à l'heure. RTL 14h04. Dans un instant, l'heure du crime avec Jacques Pradel.
Retrouvez dès demain notre rendez-vous ELM Leblanc pour découvrir les solutions de confort Blue Active qui réduisent la consommation d'énergie et l'impact sur l'environnement.
7 semaines, RTL vous offre des séjours à Center Parcs.
Profitez avec votre famille ou vos amis d'un cottage premium style tout équipé pour 4 personnes.
Vivez des sensations fortes à l'Aquamundo, un immense paradis aquatique au climat tropical toute l'année. Pour jouer et gagner votre séjour à Center Parcs, n'attendez plus.
Appelez dès maintenant RTL au 3210.
3, 2, 1, 0.
Bon, là, tout le monde retient sa respiration. C'est le top de cette collection automne-hiver 2011. Une superbe robe rouge, un beau rouge profond. Oh, le premier rang, on enlève ses lunettes noires. C'est ça, le Beaujolais nouveau. L'élégance made in France depuis 60 ans. Le Beaujolais nouveau, tellement AOC.
Le Beaujolais nouveau arrive.
Rendez-vous sur Beaujolais.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Julien Clerc.
Aujourd'hui.
En tournée à partir de janvier 2012.
C'est le printemps.
Fou peut-être, le nouvel album de Julien Clerc. On en est déjà tous fous avec RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime avec toute l'équipe réunie autour de Perrine Suquet qui m'a aidé comme chaque jour à préparer l'émission d'aujourd'hui. Près de moi c'est Caroline qui nous a rejoint, bonjour.
Bonjour Jacques, très important aujourd'hui, on attend vos témoignages sur rtl.fr, à la page de l'heure du crime, vous cliquez sur participer ou bien sûr le 3210 3210.
Le standard téléphonique d'RTL pour vos témoignages comme le disait Caroline, mais aussi pour vos questions et vos réactions par rapport à ce qu'on va se dire, puisque je rappelle, c'est une émission spéciale sur un dossier de meurtre qui, à la suite d'une accumulation, alors après il faut choisir son vocabulaire, entre dysfonctionnement, ratage, faute de procédure, c'est un dossier qui a eu comme principale conséquence de requalifier l'accusation initiale de d'homicide pour 6 des personnes qui sont mises en cause, qui sont tous des jeunes, en violence aggravée, ce qui est un délit et pas un crime, même s'ils comparaîtront devant la cour d'assises des mineurs. Quant au principal suspect, appelé le suspect numéro 1 selon l'expression, eh bien il a été mis en liberté après presque 2 ans de détention, il y a quelques semaines à peine, à la suite d'une décision de justice de la cour de cassation. Alors, on va pas vous donner un cours de droit aujourd'hui, mais c'est très important pour les simples citoyens que nous sommes, de comprendre comment une instruction judiciaire peut être, on va dire, abîmée par une série de fautes ou de dysfonctionnements. Et la raison principale de cette émission spéciale, c'est qu'au-delà de l'assassinat de Jérémy Sancier, je l'ai rappelé il y a un instant, il faut le redire, au cours d'une fête d'un petit village du Béarn qui s'appelle Naï, dans la nuit du 21 au 22 août 2009, à la suite de cet assassinat, et à la suite de ces dysfonctionnements que je viens de rappeler, le père de Jérémy, Joël Sancier, qui est notre invité aujourd'hui, qui est ancien fonctionnaire de police, a décidé de prendre à témoin l'opinion publique. Il le fait à titre personnel d'abord, et puis aussi en liaison avec une association dont on va beaucoup parler, puisque son délégué général est avec nous également, Xavier Bébin, l'Institut pour la Justice. Et cet Institut pour la Justice a mis en ligne, il y a 8 jours, une pétition en demandant aux internautes de la signer, après avoir visionné une vidéo où Joël Sancier explique, et je l'ai revu ce matin, et on va en parler tout de suite. Bonjour Joël Sancier.
Bonjour.
Il faut juste d'un mot dire, j'ai dit ancien fonctionnaire de police, vous avez travaillé dans le cadre notamment de la direction de la surveillance du territoire, DST, et puis aussi titre tout simplement de la sécurité publique. Et à la suite du drame que vous avez vécu, c'est-à-dire l'assassinat de votre fils, vous avez d'abord été mis en longue maladie. Et ensuite, votre administration vous a proposé de faire valoir vos droits à la retraite, mais ce n'est pas une sanction.
Non, ce n'est pas une sanction. C'était pour moi presque un soulagement, dans la mesure que j'avais besoin de m'investir totalement, dans un premier temps pour amener avec moi et vers le haut toujours mon épouse et mes 2 enfants qu'il me reste.
Oui.
Et le temps m'aurait manqué s'il avait fallu que je reprenne l'exercice, mes activités, que l'administration, en toute logique, ne voyait pas se faire, compte tenu de ma position de fonctionnaire de police armé sur la voie publique, même si on sait qu'avec le sang-froid et la maîtrise qui est la mienne, et je pense qu'ils n'en ont jamais douté, j'aurais très bien pu sur n'importe quelle circonstance dans une action particulière, péter les plombs, comme on dit.
Absolument, et on vous comprend. Je faisais allusion à cette vidéo que vous avez enregistrée pour expliquer vos motivations, pour rappeler les dysfonctionnements sur lesquels on va beaucoup revenir ensemble dans un petit instant, et pour demander aussi aux internautes de signer cette pétition. C'est-à-dire que, clairement, vous n'avez pas voulu attendre le procès qui va arriver un jour ou l'autre. Vous avez voulu tout de suite en appeler l'opinion publique. Est-ce que c'est uniquement à cause de la période qui est particulière cette année de l'élection présidentielle ?
Elle n'est pas liée directement à ce qu'il va se produire dans les quelques mois à venir. Elle est liée surtout à 27 mois de souffrance à notre endroit, de voir une institution judiciaire qui est totalement défaillante sur l'instruction qui était celle de notre garçon. Sur l'instruction qui était celle de ceux qui sont incriminés dans le meurtre de ce dernier, ballottés à droite et à gauche par le manque de respect, le manque de compassion, le manque d'empathie qu'on pouvait attendre d'un service judiciaire, mais surtout ce dysfonctionnement profond qui tentait à faire oublier ce qui s'est passé, le meurtre d'un garçon, dans les conditions qu'aujourd'hui, je pense, nombre d'entre nous connaissent.
Et vous dites qu'il ne faut pas que ça arrive une deuxième fois, l'autre, quoi, en fait.
Non, je crois l'avoir déjà dit. Le combat aujourd'hui que nous menons avec mon épouse et nos enfants, ce n'est plus le combat prioritaire de défendre les intérêts de notre garçon, puisque l'on voit, au travers de toutes les décisions qui ont pu être prises par les services judiciaires, sur le dossier d'instruction en l'occurrence, ces dernières décisions, ils n'y reviendront pas dessus. Je ne crois pas que le dossier de Jérémy soit enterré, mais dans tous les cas de figure, je crois que la finalité, c'est que ce dernier soit profondément compromis sur les attentes que j'en ai concernant les sanctions que je voudrais exemplaires et en tout cas au moins proportionnelles à la gravité des faits qui ont été commis. Non, le combat aujourd'hui que nous menons avec ma famille, c'est celui qui consiste à alerter l'opinion publique, toutes les familles, tous les parents, tous les enfants, tous ceux qui sont de futurs parents, sur la nécessité de changer un certain nombre de choses concernant une institution judiciaire qui est inopérante par rapport au fonctionnement de société qui est le nôtre.
Alors, vous vous êtes considéré lâché par la justice, ce sont vos propres mots. Vous avez été, on y reviendra également, menacé de procès en diffamation, accusé de subornation de témoins. On reviendra sur tout ça parce que ce sont des choses qui vous ont évidemment profondément blessé, étant donné en plus la situation de victime dans laquelle vous êtes. Je voudrais aussi dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui que, comme il est naturel, bien sûr, on va donner la parole au cours de cette émission à l'avocat du principal suspect dans cette affaire, maître Thierry Sagardo-Itto, qui sera avec nous en ligne tout à l'heure. Un mot avant la pause avec mon autre invité, Xavier Bébin, juriste, criminologue et délégué général de cet institut pour la justice. On a parlé de ces 500 000, de plus de 500 000 maintenant signatures de cette pétition. Vous attendiez à cette réaction de l'opinion ?
C'est un engouement absolument extraordinaire. Ce pacte 2012 qu'on a mis en ligne en début de semaine dernière, on l'avait préparé avec des juristes, avec des psychiatres, avec des criminologues, des magistrats, des avocats. On avait préparé une série de mesures pour remettre la justice, recentrer la justice sur sa mission première de protection des citoyens et des victimes. Et lorsque on a mis en ligne ce pacte et l'appel de Joël Sancier à le signer, il y a eu un engouement subi et incroyable qui a conduit en à peine une semaine à 550 000 signatures. La vidéo de Joël Sancier a été vue plus de 3 millions de fois par 3 millions de Français en une semaine. Et donc c'est un phénomène de société incroyable qui montre bien qu'il y a une attente très grande de la population vis-à-vis d'une justice plus équitable vis-à-vis des victimes et des citoyens.
Et on verra tout à l'heure évidemment la nature des propositions que vous faites dans cette proposition de réforme du système judiciaire. Une pause donc, et on se retrouve tout de suite après.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Allô ?
C'est moi, mon cœur, je suis en voiture, je rentre.
Enfin,
je me dépêche.
J'ai hâte de te voir, à tout de suite alors.
Oh non, raccroche pas, j'ai pas envie de te laisser.
Bon bah alors toi, raccroche.
Non, c'est toi qui raccroche.
Oh non, vas-y, toi, raccroche.
Madame, vous venez de vendre vos bijoux en or à un expert VPO chez un buraliste. Satisfaite ?
Très.
des bijoux même cassés. Et je ne pensais pas en retirer autant d'argent.
Un expert VPO achète chez votre buraliste ?
Oui, il vient plusieurs fois par an. Il a expertisé mes bijoux en toute transparence, conformément à la réglementation, et m'a payé immédiatement.
Et avec cet argent ?
Un week-end avec mon mari, des cadeaux aux enfants.
Retrouvez près de chez vous les lieux de passage des experts VPO sur vpo.fr. VPO, c'est simple, c'est pro.
T'es toujours là ?
Toi aussi, hein ? Allez, tu raccroches.
Non, c'est toi qui raccroches.
Être le moins cher sur vos produits de grande marque ? Intermarché s'y engage. Et rembourser la différence si vous trouvez moins cher ailleurs ? Intermarché s'y engage aussi. C'est ça, lutter contre la vie chère. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Voir modalité sur intermarché.com.
Non, c'est toi qui raccroches.
Non, c'est toi qui raccroches.
Non, c'est toi.
C'est toi qui raccroches.
Édouard et Bella se marient, mais leur union ne sera pas sans conséquences. Bella devra-t-elle renoncer à son humanité pour continuer à vivre ? Twilight, chapitre 4, révélation, première partie. Avec Robert Pattinson et Kristen Stewart. Le phénomène mondial continue. Twilight, chapitre 4, révélation, première partie. Le 16 novembre au cinéma.
Allez, à trois, on raccroche. Hein. Un, deux...
Allô ?
Oh non !
Allô ? Allô ?
Oh, j'ai renversé un enfant !
En France, téléphoner au volant tue une personne par jour. Sécurité routière, tous responsables. C'était un message du gouvernement.
Retour de l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
Émission spéciale donc consacrée à la fois à la mort de ce garçon, Jérémy Sancier, dans la nuit du 21 au 22 août 2009, et puis à tout ce qui s'en est suivi au cours de cette instruction. Je vais redonner la parole tout de suite à Joël Sancier, donc le père de Jérémy. Et je sais que c'est évidemment difficile pour vous de revivre finalement, nous le racontant, ce qui s'est passé. Vous avez été mis au courant quand de ce qui s'était passé dans la nuit?
J'en ai pris connaissance dans un premier temps lorsque le juge d'instruction nous a convoqué, mon épouse et moi-même, pour valider notre position de partie civile, et en même temps qu'il nous lisait, qu'il nous faisait prendre connaissance des conclusions du médecin légiste.
Mais la mort de Jérémy, vous l'avez apprise parce qu'il n'est pas rentré à la maison
Jérémy est parti le 21 dans l'après-midi au fête de Nailles, avec un groupe de copains. Il est allé retrouver sa copine du moment, avec laquelle il avait depuis quasiment un an des relations plus étroites, plus importantes. Il devait loger dans une famille qui l'avait accueilli comme l'année précédente, puisque c'était la deuxième fois que ce dernier se rendait sur les fêtes de Nailles.
Ouais, Nailles, c'est un petit village du Béarn de 3500 habitants,
oui,
à peu près.
Bien sûr, tout à fait. Et donc, Jérémy s'en va le vendredi 21 dans l'après-midi, et à 5h55 du matin...
Vous vous êtes réveillé par un coup de fil, en fait. Bon, et
c'est le gendarme. Quelqu'un vient vous le dire, le maire de Saint-Cricq, accompagné des gendarmes, qui frappe à notre porte pour nous annoncer la nouvelle.
Ouais. Alors, bon, je sais que c'est très difficile pour vous. Simplement, répondre peut-être aux questions qu'on se pose. Il a fait une mauvaise rencontre. Il a rencontré une dizaine de voyous qui est traîné dans cette fête, comme souvent à la fin des fêtes de village, quand les familles sont parties, quand il se passe des choses, et on s'est demandé les raisons pour lesquelles il avait été pris à partie par ces voyous. Est-ce qu'on peut en dire un mot, ou peut-être, je ne sais pas, vous ou Xavier Bébin, qui connaissez le dossier par cœur, parce que c'est difficile pour Joël.
Non, le dossier, c'est vrai, je m'y penche très régulièrement maintenant dans le cabinet de Maître Gomes, une de nos avocates, ainsi que Maître Martial. Effectivement, donc les confrontations entre les jeunes ont démarré aux alentours des 23h, le 21 au soir. C'est la communauté des gens du voyage qui, entre eux, essayent de régler des comptes à la suite, semble-t-il, d'un manque de respect de jeunes par rapport à un ancien. Cet ancien qui demandait instamment aux jeunes, notamment, de quitter la fête et de rentrer tranquillement. Et il s'ensuit, à la suite de ce manque de respect, une bagarre entre les fils de l'ancien qui avait été insulté et celui qui est à l'origine des propos déplacés. au-delà de cette première rixe, l'ensemble des deux, trois groupes qui composaient, cette communauté des gens du voyage se déplacent tout au long des fêtes pour se rendre en direction du pont de Naï. Et Jérémy, justement, passe sur ce pont à ce moment-là, puisqu'il est fatigué d'une semaine de travail. Il est, et je ne m'en cache pas, festif sur le moment, et il rentre légèrement imbibé,
oui.
Mais sans aucune agressivité, aucune. Il est tellement conscient d'ailleurs de sa situation qu'il téléphone à son ami pour qu'il puisse se retrouver à un endroit bien particulier pour qu'il puisse rentrer tranquillement à pied au domicile de la famille qu'il accueillait, avec comme objectif celui de se coucher et de se reposer. Et il rencontre donc au passage sur ce pont une rixe qui démarre entre les gens du voyage qui voulaient en découdre entre eux depuis 23 heures et qui finissent par passer aux actes sur le pont, et deux jeunes de 17 ans qui passent, qui n'ont strictement rien à voir avec les rixes du moment et qui se font tabasser en quelques secondes, probablement sous les yeux médusés de Jérémy qui passe à ce moment-là et qui est pris dans la bagarre. Les raisons exactes, on ne les connaît pas. Le seul qui pourrait nous en parler aujourd'hui, c'est Jérémy, puisque je ne peux pas me fier à ce que peuvent rapporter ceux qui sont à l'origine de tout ça, puisque ce sont des mensonges rapportés, modifiés en permanence depuis le début de cette affaire.
Donc il y a une dizaine de jeunes gens qui vont être mis en cause. Il va y avoir toute une succession, évidemment, l'instruction habituelle de ce genre de faits. Certains qui vont accepter leurs responsabilités. Il y a eu des coups de couteau quand même, il y a eu 7 coups de couteau. Et il y a un garçon qui va reconnaître, va reporter ses coups de couteau à la fin.
Oui, c'est exact.
Au début, dès les premières heures
de la garde à vue, qui s'effectue en toute légalité, effectivement, il reconnaît, il fait des aveux sur les coups qu'il a portés, des coups de couteau, qu'il réitère dans le cabinet du juge d'instruction et qu'il réitère à plusieurs reprises lors des expertises psychologiques et psychiatriques qui ont été les siennes.
Oui. Et lorsque le magistrat instructeur décide de requalifier ou de qualifier les faits qui touchent les autres, parce que on fait pas une conférence là, donc avec nos tripes, quoi, ça veut dire simplement il y a une bagarre, il y a au moins une dizaine de jeunes qui sont concernés par cette bagarre, il y a des coups de couteau mortels qui sont portés, et le magistrat va considérer que un certain nombre de ces jeunes gens n'ont pas directement participé aux faits et que donc on va les mettre en examen pour violence aggravée, ce qui est un délit, hein, c'est ça.
Je suis désolé de vous reprendre.
Non, mais en ce
qui me concerne, ils ont participé aux faits. Pour moi, ils se sont rendus complices du meurtre qui a été accompli. Ils étaient autour de Jérémy quand ce dernier a été mis au sol, après avoir reçu un nombre incalculable de coups de pied et coups de poing quand il était debout. Certains témoins apportent, des précisions concernant le fait qu'on voit Jérémy tomber d'un seul coup, et tous, autant qu'ils sont autour de lui, commence à lui asséner des coups de pied, des coups de poing, tandis que le plus jeune de ces gens se met à califourchon sur lui, avec une rare violence, semble-t-il, rapportée par tous les témoignages que l'on a pu obtenir, administre à Jérémy toutes les blessures qu'on connaît et qui sont passées et qui ont été celles des conclusions du médecin légiste.
D'accord. Xavier Bébin, vous vouliez ajouter une chose rapidement avant une pause.
Oui, simplement pour dire que c'est vraiment un exemple assez frappant de ce qu'on reproche aussi à l'institution judiciaire, c'est de regarder les choses de façon déconnectée des réalités. C'est-à-dire, parce que certains individus qui ont participé à l'acharnement contre Jérémy n'ont pas porté des coups mortels, on va les juger simplement sur les coups qu'ils ont donnés. Sauf que Joël Sancier et à l'Institut pour la justice, nous pensons que quand on est plusieurs autour d'un garçon qui est en train de se faire massacrer, utilisons les mots, eh bien, on est complice de meurtre. On ne peut pas traiter simplement d'un point de vue purement juridique en disant quel coup il a porté exactement, quel effet ça a eu sur Jérémy. Il faut prendre le contexte en compte.
Alors, à la suite de cela, celui en tout cas qui a reconnu avoir porté des coups de couteau, qui est mineur au moment des faits, pour cela qu'on ne donne que son prénom, Samson, va être incarcéré. Et l'affaire aurait pu, j'allais dire, en rester là en attente du procès. C'est pas du tout ce qui s'est passé, on va vous le raconter dans un petit instant.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
RTL. Flavie Flamand.
Le diabète touche 3 millions de personnes en France et en concernera davantage dans les années à venir. Comment vivre avec son diabète? J'attends vos témoignages sur RTL.fr et à partir de 15h au 32-10, une spécialiste, le docteur Pascal Modaille, sera présente pour répondre à toutes vos questions en cette journée mondiale du diabète. À tout à l'heure.
On est fait pour s'entendre.
Cet après-midi de 15h à 16h sur RTL. Côte du Rhône.
Michel, si vous alliez dîner chez votre nouvel amoureux, vous choisiriez quel vin?
Oh, ce Côte du Rhône rouge-là, c'est un vin poivré intense, mais très velouté.
Ok, je vais prendre ça alors.
Il se marie très bien avec du bœuf, par exemple. Mais j'y pense, vous avez trouvé un petit copain, Bérangère? C'est sympa?
Non. Je répète, en fait, je m'entraîne pour le jour où...
Côte du Rhône, des vins hauts en couleur.
Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Cette année, Canal Plus lance le Noël dernier cri.
S'il vous plaît.
Merci. Le Noël dernier cri, c'est Canal Plus sur tous vos écrans, maintenant inclus dans l'abonnement, pour seulement 20 euros par mois pendant un an. Alors n'attendez plus pour en profiter. En plus, jusqu'au 30 novembre, Canal Plus vous rembourse 150 euros sur l'achat d'une tablette dernière génération. C'est bon, maintenant vous pouvez crier.
Offre valable pour tout nouvel abonnement d'un an et l'achat d'une tablette éligible à l'opération. Voir conditions chez votre distributeur agréé ou au 39-10, 23 centimes la minute.
125 238, 125 239, 125 240.
Bah, Sophie, tu comptes les moutons?
Mais non, Guillaume, je compte les clients des bureaux de poste qui ont répondu à la grande enquête parole de client.
Ah, il y en a combien?
125 241 exactement.
Ah bon?
Ben oui, et pour être encore plus précise, 82% d'entre eux disent qu'ils sont de mieux en mieux accueillis dans les bureaux de poste. Joli pourcentage, non?
Ah oui, ma Sophie, viens que je t'accueille dans mes bras.
Non, je préfère aller à la poste.
Les bureaux de poste changent et c'est vous qui le dites. La poste, la confiance donne de l'avance.
Unique, essentiel, irremplaçable. Grâce à toi, grâce à lui, je revis.
Le sang est un produit rare et précieux. Le don de sang est un acte généreux, solidaire et responsable qui permet chaque année de soigner 1 million de malades. À l'approche de Noël, donnez votre sang.
C'était un message de l'établissement français du sang, www.dondusang.net.
Nous retrouvons Joël Sancier, le père de Jérémy, ce garçon assassiné de 7 coups de couteau dans les nuits du 21 au 22 août 2009. Nous sommes également en compagnie de Xavier Bébin, juriste, criminologue, délégué général de l'Institut pour la Justice. On revient dans quelques instants, 32-10 d'ici là, pour vos questions, vos réactions, vos témoignages, ou RTL.fr.
Single des Enfoirés sur RTL. Il est en vente sur les plateformes de téléchargement légal au profit des Restos du Cœur qui rouvriront le 28 novembre prochain. Les Enfoirés 2011 sur RTL.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et nous reprenons donc cette émission spéciale sur la mort de ce garçon, Jérémy Sancier, en août 2009, assassinat sur un pont, le pont de Clarac, qui est rappelé d'ailleurs à l'heure actuelle par une plaque qu'on peut lire en mémoire de Jérémy Sancier, 19 mai 1990, 22 août 2009, pour toujours dans nos cœurs, stop à la violence. Ça, c'est la plaque qui a été mise à la demande, évidemment, de ses parents et de tous ceux qui les ont soutenus dès le début de ce drame. Ce drame lourd, bien sûr, c'est dévastateur pour une famille, mais il s'est passé un certain nombre de choses ensuite sur lesquelles, maintenant, nous allons revenir en détail. On va vous raconter ce qui n'aurait jamais dû se passer. Mais avant de redonner la parole à Joël Sancier et Xavier Bébin, on va entendre une archive RTL qui est toute récente, puisqu'elle date du 4 octobre dernier, 4 octobre 2011. Une scène inhabituelle se déroule dans un palais de justice de Pau. L'avocat général va venir sur le perron du palais de justice alors présenter, on viendra là-dessus, présenter des excuses à Joël Sancier à la suite de la remise en liberté du principal accusé. Remise en liberté pour vice de procédure, on vous expliquera tout cela en détail. Et le jour même sur RTL, l'affaire est évoquée dans le journal de 12h30 présenté par Elisabeth Martichoux et Laurent Bazin. Et vous allez l'entendre, avant de rappeler l'ensemble des circonstances de ce dossier, Philippe de Maria diffuse les réactions de l'avocat général du tribunal de Pau, puis celles du père de la victime, Joël Sancier, et enfin la mise au point de l'avocat du principal suspect, Maître Saccardo Ito. Écoutons.
La mise en liberté a été ordonnée sur la base d'un texte récent. Quand on applique un texte nouveau, on peut faire une erreur d'interprétation.
Vous n'avez pas l'impression que l'erreur est lourde, monsieur ? Ce garçon a fait des aveux. Ce garçon a réitéré, notamment au cours d'expertise psychiatrique, il a mimé le geste, il reconnaît avoir tué un homme.
Un jour ou l'autre, comme tout un chacun, j'arrêterai de respirer. Et moi, je veux fermer les yeux sur l'image de mon garçon, à qui je dirais la justice a été rendue.
L'avocat du suspect, Maître Saccardo.
Dès le départ, le médecin légiste a constaté que le couteau qui avait été retrouvé sur ce jeune homme n'est pas le couteau qui a servi à donner la mort au malheureux.
Philippe de Maria, c'est vous qui étiez présent tout à l'heure à Pau, au moment de cette confrontation poignante dans le palais de justice. Revenons ensemble sur l'erreur judiciaire dont il est question. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors on va revenir sur les faits. Août 2009, les fêtes de Naï battent leur plein. Jérémy est venu s'amuser avec des copains et il se retrouve isolé à un moment et croise un groupe de jeunes. Jérémy est tabassé à mort et poignardé. 10 personnes sont interpellées. Un mineur est en possession d'un couteau. Il est incarcéré. Au bout de 2 ans, ses avocats font ce qu'on appelle une demande de remise en état de la procédure. C'est nouveau. Cela permet de mettre à plat une instruction qui s'éternise. Le parquet ne répond pas assez rapidement à cette demande et donc, conséquence, le suspect numéro 1 est relâché, d'où les tentatives d'excuses ou d'explications de l'avocat général entendu précédemment. L'auteur présumé devrait tout de même aller devant une cour d'assises, mais l'accusation est fragilisée, d'autant que les procès-verbaux de garde à vue ont été annulés. La famille de Jérémy, ulcérée par ses erreurs, a décidé de publier sur internet les PV d'audition du suspect numéro 1 dans le meurtre de leur fils.
Alors évidemment, étant donné la règle de la présomption d'innocence, ces documents ont été retirés ensuite d'Internet. Vous aviez aussi décidé, Joël Sancier, bien avant, de publier le rapport d'autopsie de votre fils. Pourquoi ?
C'est un concours de circonstances assez particulier qui s'est produit avant que je prenne cette décision avec mon épouse. Elle a été longuement et mûrement réfléchie pendant quasiment un mois. Elle est le fait de deux paramètres importants. Il faut savoir qu'en dans le courant de l'instruction, le juge qui était chargé de cette affaire a été muté professionnellement. Et il est avéré également que le procureur du tribunal de Pau l'a été dans les semaines qui ont suivi.
Donc il y a eu un changement de magistrat.
Tout à fait. Changement donc de magistrat dans le dossier d'instruction et les propos qui étaient tenus par le premier juge d'instruction qui n'était pas plus dans l'empathie que n'importe quel magistrat, parce que c'était quelque chose que je concevais de toute manière, et c'était tout à son honneur que de nous tenir informés lorsqu'il le souhaitait, pour des raisons bien particulières dans le dossier en question. Il nous avait assuré que les individus qui avaient été incriminés, et notamment ces deux personnes qui ont été remises en liberté dans le courant du mois d'octobre 2010,
ouais.
Ne retrouverait pas à son sens la liberté avant que le procès ait eu lieu. Et il se trouve que lorsque le magistrat a changé, sur une demande expresse de leurs avocats, une demande de remise en liberté a été effectuée. à laquelle elle a répondu de manière totalement positive. Merci. Ce qui nous a ulcérés, c'est d'apprendre à l'issue que cette dernière avait survolé le dossier en question, n'avait pas encore établi les auditions nécessaires auprès des principales personnes incriminées dans le meurtre de Jérémy, n'avait fait aucune confrontation. Elle se réservait ce droit de le faire dans le courant du mois de novembre.
Donc la décision vous apparaît pour le moins hâtive.
Mais bien sûr que oui. Le bon sens aurait voulu, quand je parle de bon sens, c'est le mien, mais le bon sens aurait voulu que le dossier soit pris en compte, que l'ensemble des éléments de confrontation entre les uns et les autres soient effectués. Et elle disposait d'une chance extraordinaire. C'était celle de permettre la reconstitution sur le pont de tout ce qui s'était passé. Elle avait cette possibilité de voir en trois dimensions ce que son prédécesseur n'avait pas pu opérer dans le courant du mois d'avril de cette même année, à la suite d'éléments nouveaux qui étaient venus perturber l'instruction. Et au lieu de faire tout ceci et de prendre en son âme et conscience la décision de remettre ces deux personnes en liberté sous contrôle judiciaire, elle le fait de cette manière. Et ça nous a profondément ulcérés. Et j'avais la nécessité de faire comprendre à tous les gens que des magistrats étaient capables de prendre une décision du genre en mettant en place sur le net les conclusions du médecin légiste. Ça me paraissait important que l'ensemble de la population soit au courant que dans le dysfonctionnement du service judiciaire que je subis depuis le début du meurtre de notre garçon, il y a entre autres cette décision qui me paraît totalement aberrante.
Alors Xavier Bébin, il y a aussi, là c'est aux juristes et aux criminologues que je m'adresse, il y a eu également d'autres décisions. On est revenu sur les gardes à vue frappés alors de nullité, vous allez me le confirmer ou pas, à la suite de l'application rétroactive d'une loi, désormais dans une garde à vue, il faut la présence d'un avocat. À l'époque où ces garçons sont passés en garde à vue, il n'y avait pas d'avocat, mais la loi est rétroactive, donc ils ont été ces gardes à vue ont été annulés. Et puis il y a ce que disait il y a un petit instant Philippe de Maria, il rappelait que c'était à la suite de la demande de mise en état de la procédure, qui est un peu compliqué au terme juridique, le principal suspect était remis en liberté.
Oui, c'est deux décisions qui ont eu lieu en septembre dernier, deux décisions coup de massue, à deux semaines d'intervalle. D'abord, pour ce vice de procédure dont on a parlé tout à l'heure, parce que pour une formalité juridique, les magistrats ont mis 5 mois alors qu'ils avaient 3 mois.
Pour le faire, voilà.
Et pour le faire,
donc c'est parfaitement légal.
Et le droit a été respecté, mais c'est le droit qui est contestable, en l'occurrence. Un meurtrier présumé a été remis en liberté sans contrôle judiciaire au départ, suite à cette erreur de procédure. Et deux semaines après, donc vous imaginez le choc, et deux semaines après, on apprend que les PV d'audition de garde à vue, c'est-à-dire les aveux qui ont été formulés par les suspects, notamment par le principal suspect, en garde à vue, sont annulés, donc ne pourront plus être utilisés dans cette procédure. C'est-à-dire que les jurés ne pourront pas entendre ces aveux. Ils ne pourront pas entendre ces aveux, on ne pourra plus les utiliser. Et ça, à deux semaines d'intervalle, ça a été un choc évidemment extrême.
Alors, on revient, je vous redonne la parole bien volontiers dans un petit instant. On va aussi entendre là, dans quelques instants, après cette pause, Thierry Sagardo-Itto, c'est l'avocat du principal mis en examen.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Depuis des années, vous adorez cette lampe. Mais maintenant que vous vous en êtes lassé, vous vous apprêtez à la jeter. Ça ne serait pas le moment d'avoir une idée lumineuse et d'en faire profiter quelqu'un d'autre? En choisissant de donner ou de vendre les objets encore en bon état dont on ne se sert plus, on peut réduire ses déchets de 13 kilos par personne et par an.
Du 19 au 27 novembre, c'est la Semaine européenne de la réduction des déchets. Le programme de votre région sur réduisonsnosdéchets.fr.
Grenelle Environnement, entrons dans le monde d'après.
Ceci est un message du ministère du Développement durable et de l'ADEME.
Parlons silhouette et ménopause avec le docteur Marie Béjot, fondatrice du laboratoire Eunobiol.
94% des femmes déclarent prendre du poids après 50 ans. Le corps brûle moins bien les calories et elles ont du mal à perdre les kilos en trop. Pour les aider, nous avons développé un complément alimentaire adapté, Eunobiol, femme 45+, perte de poids.
Comment agit-il?
Son extrait de café vert, testé scientifiquement, aide le corps à brûler les graisses et permet de perdre du poids.
Eunobiol, femme 45+, perte de poids, chez votre pharmacien. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Être le moins cher sur vos produits de grande marque? Intermarché s'y engage. Et remboursez la différence si vous trouvez moins cher ailleurs? Intermarché s'y engage aussi. C'est ça, lutter contre la vie chère. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Voir modalités sur intermarché.com.
Vous travaillez au domicile d'un particulier? Vous avez des questions sur vos droits en retraite, prévoyance, mutuelle, aide sociale? Le bus IRSEM vient à votre rencontre. Retrouvez-le à Troyes les 15 et 16 novembre. Toutes les infos sur IRSEM.com, IRCEM.
Cette année, Canal+ lance le Noël dernier cri.
S'il vous plaît!
Merci! Le Noël dernier cri, c'est Canal+, sur tous vos écrans, maintenant inclus dans l'abonnement, pour seulement 20 euros par mois pendant un an. Alors n'attendez plus pour en profiter. En plus, jusqu'au 30 novembre, Canal+ vous rembourse 150 euros sur l'achat d'une tablette dernière génération. C'est bon, maintenant vous pouvez crier.
Offre valable pour tout nouvel abonnement d'un an et l'achat d'une tablette éligible à l'opération. Voir conditions chez votre distributeur agréé ou au 3910, 23 centimes la minute.
C'est vrai, chez Tropicana, la qualité est une obsession. Et c'est aussi vrai que pour cela, nous vous proposons nos jus au rayon frais afin de vous offrir un goût plus proche du fruit. Alors oui, chez Tropicana, nous voulons que nos jus du rayon frais soient un peu comme ça. Mais c'est uniquement pour qu'une fois dans votre corps, il fasse...
Tropicana, la journée peut commencer.
L'heure du crime sur RTL.
Alors il y a dans ce dossier un mis en examen pour homicide, 6 autres personnes, et je retire le mot jeune parce que hors micro, Joël Sancier me faisait remarquer qu'il n'y avait pas que des jeunes et que des mineurs dans ceux qui ont été accusés de complicité pour l'assassinat de son fils. On va revenir sur ce dossier. Évidemment, il fallait donner également la parole à l'avocat du principal accusé. C'est ce que nous allons faire maintenant avec maître Thierry Sagardoit. Bonjour maître.
Bonjour Jacques Pradel, bonjour monsieur Sancier.
Et merci d'avoir accepté notre proposition de vous exprimer dans cette émission. Vous êtes sur téléphone portable au Palais de Justice de Paris parce que vous êtes sorti d'une audience, je crois, pour nous parler. Joël Sancier ne souhaite pas entrer en dialogue avec vous. Vous le comprendrez, je suppose, et notre but à nous n'est pas de créer un incident d'antenne. Vous n'êtes pas, évidemment, n'avez pas du tout la même appréciation de ce dossier. Vous savez qu'il a été, par ailleurs, choqué d'un certain nombre de déclarations que vous avez pu faire, mais je ne reviens pas sur ce point-là. De votre point de vue de défenseur du principal accusé, quel point pouvez-vous faire sur l'état de ce dossier? Est-ce que vous êtes aussi d'accord pour dire qu'il y a un dysfonctionnement?
Je suis d'accord avec les parties civiles sur le fait qu'il y a un dysfonctionnement majeur dans ce dossier. Ça fait d'ailleurs 2 ans que je le dénonce et l'ensemble des actions qui ont été entreprises devant la cour d'appel de Pau n'avaient d'autre but que de dénoncer ces dysfonctionnements à répétition. Le problème est que nous nous retrouvons 2 ans plus tard avec l'obligation de faire le point, et s'il est exact que les décisions survenues au mois de septembre dernier se sont révélées douloureuses, c'est pour la simple et bonne raison que il fallait bien un jour ou l'autre que la Cour de cassation en tire les conséquences, et elle s'est exprimée par 2 fois au mois de septembre dans les conditions que l'on sait.
Cassez sur ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un instant, sur la demande de mise au point du dossier, c'est ça?
Alors, la mise en état, je peux vous expliquer de quoi il s'agit. Je vais vous expliquer comment la procédure a été mise en œuvre. Il faut savoir que cette innovation procédurale procède de la loi de mars 2007 qui elle-même tire les enseignements de la catastrophe judiciaire d'Outreau. Pour faire clair, Le Parlement, les députés ont révisé le code de procédure pénale en 2007 et ont permis à un mis en examen dans une affaire criminelle de demander une sorte de débat public contradictoire lorsqu'une personne est mise en cause dans une procédure de nature criminelle. Cette audience, c'est une espèce de procès avant l'heure qui consiste à faire le point sur le contenu du dossier, à demander évidemment un certain nombre d'actes, à demander au juge peut-être aussi de tirer un certain nombre d'enseignements.
Et c'est cette demande donc... pour laquelle on n'a pas répondu dans les... Oui, cette demande a été faite.
Qui a été faite au mois d'octobre 2010.
Et la réponse n'est pas intervenue dans les délais, donc, c'est ça.
Et la réponse est intervenue avec plus de plusieurs mois de retard, en tout cas bien au-delà du délai de 3 mois qui était imparti au magistrat.
D'accord. Alors, maintenant, il va y avoir un procès, donc quel est votre sentiment? Parce que votre client, il est toujours impliqué d'homicide dans ce dossier. Est-ce que ça ne va pas être requalifié?
Alors, Dans ce dossier, depuis le début, ma consoeur Denise Pombiel et moi-même ne cessons de dénoncer tout d'abord la catastrophe d'une enquête. Et sur ce point, j'ai entendu l'avocat de Joël Sancier, Maître-Édouard Martial, dire très récemment que ce dossier, c'était l'outreau des victimes parce qu'il dénonçait à juste titre une enquête bâclée, une enquête qui, disait-il, manquait par qui brillait par un manque d'intelligence, un manque de travail. Et avant même d'être un désastre judiciaire, ce dossier, c'est d'abord tout un désastre au niveau de l'enquête. Des actes qui ont été faits en dépit du bon sens, des pièces qui n'ont pas été saisies, d'autres qui l'ont été, mais dans des conditions tout à fait anormales. Bref, une enquête qui, avant de conduire un désastre judiciaire, est d'abord tout, avant tout, un désastre en termes d'investigation.
Mais pour être clair, vous pensez que c'est au détriment de votre client ?
Bien évidemment, et ça fait 2 ans que je le dis, parce que, un exemple, certains ne cessent de dire que les aveux sont la pierre angulaire du dossier. Je dirais que loin d'être la pierre angulaire du dossier, c'est au contraire la pierre d'achoppement. Ces aveux ont été, je dis, extorqués, et le mot n'est pas trop fort, dans le temps d'une garde à vue, alors même que ce gamin ne cessait de réclamer la présence d'un avocat à ses côtés. À l'époque, la loi ne le lui permettait pas. Ces aveux, lorsqu'il a fallu les confronter aux éléments matériels du dossier, des expertises, l'avis du médecin légiste, etc., on s'est rendu compte qu'en réalité, il avait passé des aveux qui sont complètement démentis par les données médico-légales du dossier. Autrement dit,
donc là, on anticipe le procès.
Anticipe le procès. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que la justice aujourd'hui...
On ne fait pas ici à la radio, hein, on est bien d'accord.
J'entends bien. Mais il est évident que dans ce dossier, il faudra bien, à un moment donné, que l'on parle du fond du dossier. Mm-hmm. Et je crains malheureusement que le procès ne réserve encore des lendemains douloureux. Parce que mon intime conviction, c'est que le meurtrier de Jérémy Sancier figure parmi les autres mis en cause qui aujourd'hui ne sont pas renvoyés sous la qualification de meurtre devant la cour d'assises. Quand je dis qu'il s'agit d'un désastre dans ce dossier, je partage évidemment l'analyse des parents sensiers, parce que s'ils ont bien un droit aujourd'hui, c'est que la justice fasse bien son travail. En ce qui nous concerne, je puis vous dire que nous avons tiré les enseignements de ce que nous considérons être des carences de l'institution et nous avons assigné l'État en réparation pour un certain nombre de choses que je ne développerai pas aujourd'hui. Eh bien, je dis que si certains ont à se plaindre du travail juge d'instruction, il y a pour cela des procédures, il y a pour cela des actions qui existent et il faut les employer.
Très bien, je vous remercie de cette mise au point rapide. Il était naturel de vous entendre, d'entendre vos arguments, bien sûr. Une nouvelle pause, c'est la dernière dans cette émission. Et puis, on va maintenant se pencher sur les propositions que fait l'Institut pour la Justice, qui est représenté ici par Xavier Bébin. Ce mouvement est parti de l'histoire particulière de Joël Sancier, mais il va aller beaucoup plus loin. Et on va vous expliquer dans quelle direction dans un petit instant.
L'heure du crime sur RTL.
Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas, ils déménagent ?
C'est la table grande. Chaque semaine, ces 5 classes réunissent en triangle autour d'un whisky grande. Ce qu'ils aiment, tu vois, c'est sa douceur, son goût chaleureux, fruité.
Ah oui, donc le triangle grande, c'est la bouteille, mais c'est surtout une question de goût.
Tu vois que tu comprends mieux quand t'arrêtes d'être aussi carré. Grande. Le triangle grande.
Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Canal, ça t'arrive pour faire le show. Et vous prépare pour Noël un gros cadeau.
Maintenant, regardez
ce dont vous rêvez.
Surtout vos écrans.
Et quand vous voulez. Canal, ça te pendant un an. Et t'as 15 euros par mois seulement.
Et profitez aussi de 150 euros remboursés sur l'achat d'une tablette. Rendez-vous chez les distributeurs agréés ou appelez le 3910. 23 centimes la minute, exclusivité satellite et ADSL. Offre soumise à conditions valables jusqu'au 30 novembre pour tout nouvel abonnement à CanalSat plus pack multi-écran.
Leclerc.
Papa, j'ai un peu faim.
T'as pas pris ton goûter ?
Non, et la piscine, ça creuse.
Alors tu regardes dans le frigo et tu te prends une petite vache qui rit.
J'adore ça.
Moi aussi, de la vache qui rit avec 25% ticket Leclerc, j'adore ça.
Du 9 au 19 novembre, les 24 portions de vache qui rit sont à 2,49€, soit 6,23€ le kilo, avec en plus 25% de ticket Leclerc sur présentation de votre carte Leclerc. Par modalité dans les magasins participants.
C'est bon, la vache qui rit.
Oh, papa, branche pas la boîte, là.
Mais t'as pas eu piscine, toi.
Pour votre santé, évitez de grignoter.
125 238, 125 239, 125 240.
Bon, Sophie, tu comptes les moutons ?
Mais non, Guillaume, je compte les clients des bureaux de poste qui ont répondu à la grande enquête parole de client.
Ah, il y en a combien ?
125 241 exactement.
Ah bon ?
Ben oui, et pour être encore plus précise, 82% d'entre eux disent qu'ils sont de mieux en mieux accueillis dans les bureaux de poste. Joli pourcentage, non ?
Ah oui, ma Sophie, viens que je t'accueille dans mes bras.
Non, je préfère aller à la poste.
Les bureaux de poste changent et c'est vous qui le dites. La poste, la confiance donne de l'avance.
Pour réparer, quelle expertise chez Mondial Pare-Brise ?
Mondial Pare-Brise, Denise.
Mondial Pare-Brise.
Agréé par les assurances.
Qui est Falling sur RTL. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et on retrouve les invités de l'heure du crime, Joël Sancier et Xavier Bébin, donc juriste, criminologue, délégué général de l'Institut pour la justice. Alors on a rappelé Xavier Bébin et maintenant je vais vous laisser la parole. On a rappelé au départ de cette émission les raisons pour lesquelles était née cette pétition et vous demandez en fait au public et aux internautes, et vous avez eu plus de 550 000 signatures au jour d'aujourd'hui après 8 jours de mise en ligne, vous demandez de signer une pétition qui demande en fait aux responsables politiques de s'engager pour un certain nombre de réformes. Et à 16h, tout à l'heure, en présence d'ailleurs de Joël Sancier, vous serez à Paris pour une conférence de presse. Alors, est-ce qu'on peut anticiper de quelques minutes cette conférence de presse ?
Oui, bah écoutez, c'est vrai que c'est nous avons lancé donc avec nous avons préparé avec les juristes et les experts associés de l'Institut pour la justice une série de réformes. Une série de propositions de réforme pour recentrer la justice sur sa mission première de protection des citoyens et des victimes.
Si vous êtes d'accord, je vais faire une chose. Il y a 5 propositions. Ouais. Je vais les citer. Ouais. Et déjà, dans un premier temps, d'une phrase, vous nous dites exactement ce que vous souhaitez.
Mais simplement,
qu'on comprenne bien, qu'on ait le temps surtout de bien entendre les 5 propositions.
Mais l'esprit global, c'est quand même l'affaire Sancier l'illustre, et malheureusement, il y en a d'autres comme ça. Ça illustre quoi ? Ça illustre que la justice s'éloigne de plus en plus de sa mission de protection des citoyens et des victimes. Et c'est ça qu'on souhaite renverser par ce pacte 2012, qu'on souhaite qu'un maximum de citoyens se mobilisent autour de ce pacte.
D'où votre première proposition, qui est l'égalité de droits entre la victime et l'accusé.
Il faut savoir que les victimes aujourd'hui ont moins de droits à chaque étape de la procédure judiciaire que les mises en cause et que les condamnés. Nous souhaitons le principe d'égalité des droits à toutes les étapes de la procédure.
Votre deuxième proposition, c'est l'impunité zéro pour les atteintes aux personnes et aux biens. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de délits qui sont classés sans suite alors qu'on connaît l'auteur, ou qui font l'objet d'une série de sanctions qui ne sont pas vraiment des sanctions, que ce soit des rappels à la loi, des sursis, des choses qui encouragent la récidive en encourageant l'impunité.
Mmh. Troisième proposition, c'est l'application effective des peines prononcées. Vous dites que...
Il faut savoir que 80 000 peines de prison aujourd'hui ne sont pas effectuées, faute de place en prison. Mmh. Et que la plupart des peines sont à moitié exécutées, parce qu'il y a tout un dispositif de remise de peine automatique pour faire sortir les détenus avant la fin de leur peine. Nous souhaitons revenir à un principe qui devrait être le principe de base et de la crédibilité de la justice, donc de l'application normale des peines qui sont prononcées par les tribunaux.
Quand vous parlez de fermeté de précaution vis-à-vis des criminels dangereux, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'il faut que le système judiciaire prenne en compte le fait qu'il y a des individus dangereux. Qu'il y a des individus en matière sexuelle notamment, mais pas seulement, en matière criminelle. dont il est, à un moment donné, qui ont commis des actes très graves, dont il est irresponsable et dont il est dangereux de remettre en liberté. Il y a un moment
donné...
Ça veut
dire que vous êtes pour la perpétuité réelle.
Pour les très grands criminels, pour les Guy Georges, pour les Fourniret, oui, la perpétuité réelle. Il est inconcevable, dans certains cas, pour des meurtriers en série notamment. C'est une atteinte, si vous voulez, c'est une mise en danger de la vie d'autrui que de remettre en liberté des personnes qui ont montré, qui ont fait la preuve de leur dangerosité. Aujourd'hui, il faut que le système judiciaire en tienne compte.
Et la dernière des propositions que vous demandez donc au public de signer, c'est, je vous cite là, une justice transparente qui rende des comptes aux citoyens. Ça veut dire que c'est clairement, c'est que vous êtes pour que la responsabilité pénale des magistrats, en cas de faute avérée...
Pas la responsabilité pénale. Il faut d'abord une transparence. Il faut savoir que le système judiciaire est très opaque. Les citoyens n'y comprennent rien. Le vocabulaire n'est absolument pas le vocabulaire des citoyens. Et les magistrats sont peut-être le corps qui rend le moins de compte à la société, alors que c'est un des piliers de la paix sociale qui est le pouvoir judiciaire.
Ouais, vous pensez au juge d'Outreau qui a eu une simple réprimande ?
Il y a ce problème-là, bien sûr. Et il y a le problème que les magistrats ne rendent pas de compte aux citoyens sur leur action, ne rendent pas suffisamment de compte. Et notamment, je vous donne un seul exemple. Toutes les décisions d'application des peines, quand on décide de remettre en liberté un condamné à perpétuité, tout ça se fait à huis clos.
Ça ne se fait plus avec une personne seule.
Non, c'est un tribunal, mais il y a, c'est justement le problème, c'est qu'il y a une décision des jurés d'assises, ensuite il y a un nouveau tribunal, quelques années après, qui se met en place, un tribunal d'application des peines, sauf que celui-là, il est à huis clos. C'est ce manque de transparence que nous dénonçons, nous voulons une justice transparente et responsable.
Et Joël Sancier, vous n'avez pas peur d'être pris en otage à un moment ou à un autre, parce que, oui, je vais vous voir réagir quand je dis pris en otage, simplement pour des raisons politiques qui dépasseraient... Vos simples convictions, parce que vous êtes extrêmement mesuré, je l'ai rappelé tout à l'heure, y compris dans les propos que vous tenez dans la vidéo qui est sur internet, mais enfin est-ce que le risque n'est pas là?
Non, monsieur Pradel, je ne fais pas de politique. J'ai aujourd'hui un souci, celui de mendier un petit peu de justice à cette grande institution qui a démontré sur les 27 mois qui ont passé son dysfonctionnement complet sur le dossier de Jérémy et malheureusement sur d'autres dossiers à venir. La politique, c'est pas mon rayon. Je laisse ça à ceux qui veulent bien la faire. Ce que j'attends, moi, simplement, c'est la justice, c'est tout et pas autre chose.
Mais vous êtes pour que les candidats à l'élection présidentielle prononcent sur ces propositions.
Quitte à faire, ça serait stupide de notre part de ne pas profiter effectivement des élections présidentielles à venir pour leur soumettre l'idée que derrière l'action qui est la nôtre aujourd'hui, aux côtés de l'Institut pour la justice, les quelques 570 000 signatures recensées dans le milieu de l'après-midi viennent heurter un petit peu le raisonnement des politiques pour qu'ils puissent rajouter dans leur programme ce que l'on propose.
Je vous remercie en tout cas d'avoir accepté notre invitation.
C'est
merci beaucoup,
remercie,
Joël Sancier, et merci Xavier Bébin. Et je pense que la suite, pour connaître la suite de ce qui est une aventure au sens noble du terme, il faudra on en entendra parler dans les différentes éditions des journaux de la rédaction d'RTL. Merci encore, et dans un tout petit instant, c'est Flavie Flamand que nous allons retrouver.